Le journal.
Le journal est présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. François Fillon de plus en plus isolé. On apprend ce soir que son directeur de campagne, Patrick Stefanini, a présenté sa démission qui sera effective dimanche soir. Un peu plus tôt dans la journée, l'UDI s'est désolidarisé du candidat Les Républicains. Son porte-parole Thierry Soler, qui était aussi l'organisateur de la primaire, a lui aussi jeté l'éponge. Marine Le Pen, convoquée par les juges en vue d'une possible mise en examen, la candidate du Front National aurait écrit dans un courrier envoyé aux juges qu'elle ne répondrait pas à cette convocation avant la fin de la campagne. Le Front National qui tente de séduire à gauche. Il a même mis en place toute une organisation dans ce seul but. On en parle dans notre dossier du soir avec Philippe Reltien. Dans l'actualité internationale, le ton continue à monter entre Berlin et Ankara. Les autorités locales allemandes ont décidé d'interdire des rassemblements de soutien au président turc Recep Tayyip Erdogan. Du côté des autorités turques, on est agacé et on le fait savoir. Nous ferons le point avec Nabila Hamel. Nous sommes donc à 7 semaines du premier tour de l'élection présidentielle en France et la question se pose plus que jamais. François Fillon va-t-il pouvoir maintenir sa candidature alors qu'il est de plus en plus isolé? Ce soir, nous apprenons que son directeur de campagne, Patrick Stefanini, présente sa démission qui sera effective dimanche soir. Le candidat Les Républicains a déjà été lâché par quelques 107 personnalités de la droite qui le soutenaient jusqu'à présent, ainsi que par l'UDI. Pourtant, il maintient sa candidature et entend bien continuer jusqu'au bout en appelant notamment les militants à venir nombreux dimanche, place du Trocadéro à Paris. Précision avec Stéphane Robert.
C'est un vrai psychodrame qui est en train de se jouer autour de François Fillon. Ce matin, Patrick Stefanini, son directeur de campagne, lui a remis sa démission au motif qu'il refuse d'assumer l'éventualité d'une élimination au premier tour, désormais possible, écrit-il, et qui placerait le peuple de droite devant un choix cornélien, voter pour Emmanuel Macron, autrement dit pour la gauche, ou pour Marine Le Pen. La lettre de Stefanini a été publiée dans la soirée par le journal du dimanche sur son site internet, mais très peu de temps après, François Fillon lui-même a démenti la démission de son directeur de campagne à l'AFP, lequel Stefanini lui a répondu, via le journal Libération, que sa démission était irrévocable. On était là entre 20h et 21h, tout ça paraissait incroyable. Démission, démenti, déni, confirmation. Dans quel état d'esprit peut bien se trouver François Fillon pour que se déroule un tel scénario par médias interposés? On imagine le drame qu'il est en train de vivre et son entourage avec lui. Comment tout ça peut-il finir et surtout à quoi est-ce que ça peut aboutir? En tout cas, lâché de toute part, il apparaît désormais peu probable que François Fillon puisse encore très longtemps maintenir sa candidature. Après avoir marché sur l'eau, il est en pleine ascension de son Golgotha politique. Dès lors, combien de pèlerins sont encore prêts à le suivre? On en aura une idée dimanche avec la manifestation place du Trocadéro à Paris, si bien sûr elle n'est pas annulée d'ici là.
Et on reparle d'Alain Juppé comme d'un possible plan B. Son entourage fait savoir que le maire de Bordeaux ne se défilera pas comme on recourt à deux conditions. S'il obtient un soutien unanime de son parti et si François Fillon se retire de lui-même. Le grand ras-le-bol de Benoît Hamon, il essaye de faire campagne sur le fond, seulement voilà, cette affaire Fillon sature le débat démocratique. C'est ce qu'a déclaré cet après-midi le candidat socialiste à son QG de campagne. On l'écoute.
Moi j'étais jusqu'ici désireux de ne pas mêler ma voix finalement à tout ce qui donnait de l'importance à cette affaire, en espérant parler d'autre chose. Mais ce qui est devenu insupportable, c'est que je veux parler de services publics, on me répond Fillon. Je veux parler d'entrepreneuriat, mais pour des raisons que je ne vous reproche pas, on me parle Fillon et affaires. Demain, quand je voudrais parler d'Europe, on me répondra encore François Fillon. Ça n'est plus possible. Nous n'arrivons pas à organiser le débat de cette élection présidentielle. Il n'arrive pas à éclore. Et tout cela est dû à quoi? À une affaire qui aujourd'hui sature le débat démocratique. Voilà, c'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à neutraliser le brouhaha, le tumulte de l'affaire Fillon. Et au bout du compte, on reste sur l'écume de la vague, là où on devrait parler déserts médicaux, là où on devrait parler fonctionnaires en catégorie C, là où on devrait parler transition écologique, là où on devrait parler banlieue, là où on devrait parler école. En fait, on n'y arrive que quelques secondes. Vous voyez, c'est comme si on captait un tout petit peu de lumière, mais qu'on basculait dans la pénombre immédiatement.
Benoît Hamon interpellé lors donc d'une conférence de presse consacrée à l'entrepreneuriat cet après-midi. Marine Le Pen est convoquée par les juges d'instruction en vue d'une possible mise en examen. Il s'agit des suites de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistant du FN au Parlement européen. Elle a fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à cette convocation avant la fin de la campagne dans un courrier qu'elle a adressé aux juges. Et au sujet du FN toujours, cette enquête d'Ipsos qui révèle rappelle que le parti étend sa séduction aux sympathisants de gauche. 7% de ceux qui avaient voté pour François Hollande en 2012 seraient ainsi prêts à voter Marine Le Pen à la prochaine élection. Alors pour en parler plus en détail, notre dossier de ce journal est signé Philippe Reltien. Bonsoir.
Bonsoir Ilan.
Alors vous êtes journaliste chez nos confrères de France Inter, vous avez mené l'enquête justement sur ce sujet et vous avez découvert qu'en sous-main, c'est toute une organisation du FN très efficace qui fonctionne pour justement élargir l'électorat à des gens qui étaient plutôt éloignés des positions lepénistes jusqu'à présent.
Oui, avec un objectif bien sûr, capter une partie de l'électorat qui votait plutôt à gauche jusqu'ici. Pour ça, on le sait, le Front National a recentré son discours sur le social, mais il fait plus que ça. Il développe aussi ce qu'on appelle des collectifs. Par exemple, dès que la polémique est née autour du projet Fillon sur la santé, le Front National a compris tout le parti qu'il pouvait en tirer. Il a donc ajusté son message et créé un collectif autour de cette thématique. Sophie Montel, députée européenne FN, nous explique comment ça se passe dans son propre collectif en Franche-Comté.
Les invitations se font sur le fichier des adhérents, donc il y a des usagers effectivement qui se déplacent, mais il y a aussi des professionnels de santé, il y a des professions libérales, il y a des chirurgiens dentistes, il y a des médecins, il y a des chirurgiens tout court, et il y a aussi des infirmières.
Être adhérent.
Oui, il faut être adhérent, mais sachant que quand on invite les gens, ils sont libres d'inviter des amis. Voilà, c'est un peu des chaînes qui se mettent en place. Ce seront pour la plupart des électeurs de Marine Le Pen à ces élections présidentielles.
C'est en tous les cas le but affiché. Et dans ces collectifs, on décline la thématique choisie, en l'occurrence la santé, en promettant de nouveaux droits garantis aux Français seulement. Et donc en jouant aussi sur la fibre anti-immigration, puisque les étrangers seraient, eux, exclus de certains de ces droits.
Et alors, est-ce que ce discours porte ?
Eh bien, apparemment oui. En tout cas, auprès d'une nouvelle génération qui a un autre regard sur le FN. C'est un peu comme si les freins avaient lâché, observe Florent Gougou, spécialiste de l'extrême droite à Sciences Po Grenoble.
L'équation dans la tête, c'était un ouvrier, c'est quelqu'un de gauche. Et résultat, on avait du mal à penser qu'un ouvrier pourrait voter pour le Front National. Ce que j'ai montré, moi, c'est que c'est le renouvellement des générations qui est la dynamique principale à l'intérieur des changements au sein du vote des ouvriers. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui votent pour le Front National, ils ont peut-être les mêmes caractéristiques sociologiques que leurs parents, mais en revanche, ils n'ont pas le même type de comportement électoral.
Et si ces jeunes votent différemment, c'est parce qu'ils ont vécu une succession d'alternances droite-gauche qu'ils jugent stériles. Ils n'ont pas connu le rêve européen et surtout ils n'ont pas connu le FN de Jean-Marie Le Pen et les groupuscules néofascistes qui gravitaient autour de lui.
Oui, c'est ça qui explique effectivement cet autre regard que celui de leurs aînés. Mais le FN ne recrute pas à gauche que dans le monde ouvrier, il cible aussi les classes moyennes.
Absolument, et là encore à travers ces fameux collectifs. Il existe ainsi un collectif écologie qui propose de privilégier une écologie compatible avec le nucléaire. Plus besoin de fermer Fessenheim. Et pour les profs, un bastion jusqu'ici quasi imperméable au FN, eh bien, on a les collectifs racines. Écoutez Aymeric Durox, enseignant en histoire géo en Seine-et-Marne. Il a créé chez lui le premier collectif racine qui s'étoffe peu à peu.
Ça s'est fait via Facebook, en fait. Donc j'avais réussi à réunir une quinzaine de profs en 2 mois. On a fait une réunion préparatoire le 3 octobre chez un professeur. On était là, voilà, à peu près 12-13. Aujourd'hui, on est environ 30-35 profs. On a des professeurs du premier degré, on a des directeurs d'école, on a des professeurs du second degré et on a un ou deux profs du supérieur aussi.
Alors, on imagine quand même que les enseignants qui votent Front National restent assez peu nombreux.
Ah, ils sont 100 en Île-de-France. C'est peu nombreux, mais peu à peu, des verrous sautent. Et à en croire Jean-Yves Camus, qui dirige l'Observatoire des radicalités politiques pour la Fondation Jaurès, il ne faut pas sous-estimer l'efficacité de ces collectifs.
15 personnes motivées, correctement formées, qui par capillarité diffusent leur message dans leur milieu professionnel, en termes de résultats électoraux, de retour sur investissement électoral, c'est susceptible d'être non négligeable. Ce qu'il faut regarder, ce n'est pas tellement le nombre d'adhérents. Hein. 57 000, dit le Front National, c'est la part du vote qu'il capte. Et si cette part de vote est aussi importante, si dans un village ou dans une petite ville de la région, le Front National peut recueillir jusqu'à 30-35% des voix, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a un travail de terrain qui est effectué par des gens qui sont des relais d'opinion.
Et résultat, aujourd'hui, Ipsos estime que 7% de ceux qui avaient voté Hollande en 2012 pourraient voter Marine Le Pen cette année. Ce n'est pas un raz-de-marée, bien sûr, mais c'est loin d'être négligeable.
Merci beaucoup Philippe Reltien. Tiens, comment le Front National s'y prend pour capter un électorat de gauche ? Votre enquête est à écouter en intégralité demain à 13h20 sur France Inter. Bernard Cazeneuve en visite à Athènes aujourd'hui. Le Premier ministre a tenu à afficher soutien et solidarité avec la Grèce sur plusieurs questions, celle des réfugiés par exemple, mais aussi celle de la dette. Il a pris la parole après un entretien avec son homologue Alexis Tsipras. On écoute Bernard Cazeneuve.
Alors que la Grèce a dû affronter les situations les plus difficiles, elle a su aussi, et c'est sa force, prendre avec courage des décisions importantes pour améliorer les conditions de vie de ses habitants. Et elle récolte aujourd'hui le fruit de ses efforts. L'économie redémarre, les perspectives de croissance sont bonnes, les investissements reprennent, les réformes aussi progressent, et nous souhaitons, pour toutes ces raisons, redire notre confiance en la Grèce, qui a tant à offrir à l'Union européenne.
Des propos recueillis au micro de Julie Pietri. Dans l'actualité internationale toujours, il s'agit de la première opération d'envergure de l'administration Trump. Les États-Unis frappent Al-Qaïda au Yémen aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive. Quelques 10 attaques ont été menées dans la journée selon un responsable du département de la défense à Washington. 8 membres du réseau djihadiste ont trouvé la mort dans ces bombardements. Des sources tribales affirment également que des femmes et enfants ont été blessés. L'Espagne va très nettement augmenter la capacité des centres d'accueil de migrants dans ses enclaves en territoire marocain de Ceuta et Melilla. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le gouvernement espagnol. Il s'agit de faire face à une augmentation massive des arrivées. Concrètement, donc, le budget des centres va tripler. Il va passer de 82 à 268 millions d'euros. Et le nombre de places pour migrants, donc, quant à lui, va passer de 4500 à 8500. L'immigration, toujours, elle est au cœur de cet accord signé entre l'Allemagne et la Tunisie. Le texte prévoit d'accélérer les procédures de refoulement de Tunisiens auxquels des titres de séjour auraient été refusés. Plus concrètement, les autorités tunisiennes ont désormais 30 jours pour répondre aux demandes de Berlin. On sait que le sujet est très épineux entre les deux pays. Depuis l'attentat du 19 décembre contre un marché de Noël à Berlin, c'est un Tunisien, Anis Amri, on s'en souvient, qui avait été identifié comme l'auteur présumé de cette attaque. Et les autorités tunisiennes avaient alors été accusées d'avoir bloqué son rapatriement durant de nombreux mois. Le ton continue à monter entre l'Allemagne et la Turquie. Un nouveau meeting de soutien à Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a été annulé à Frechen dans l'ouest de l'Allemagne. C'est la troisième décision du genre en 48 heures. Un motif supplémentaire de tension entre Ankara et Berlin. D'où la nouvelle diatribe ce soir du président turc contre l'Allemagne, accusé d'héberger des terroristes. Nabila Hamel.
Oui, en accusant Berlin d'abriter des terroristes, le président Erdogan fait allusion aux Kurdes proches des séparatistes du PKK et fait allusion également à des sympathisants du prédicateur Gulen. Les tensions entre l'Allemagne et la Turquie, deux piliers de l'OTAN, sont certes récurrentes depuis le coup d'État avorté du 15 juillet dernier, mais elles connaissent un nouveau pic depuis l'arrestation mardi du journaliste Deniz Yücel. Cette guerre verbale a également pour origine l'annulation de 3 meetings pro-Erdogan dans plusieurs villes d'Allemagne, dont Cologne. Motifs invoqués, soit les salles n'étaient pas prévues pour des événements politiques, soit les capacités d'accueil ne permettaient pas ces meetings, soit il était impossible de prendre des mesures de sécurité suffisantes. Le président turc comptait sur sa plus forte diaspora dans le monde pour mener campagne en faveur du référendum constitutionnel du 16 avril qui lui permettrait d'avoir tous les pouvoirs entre ses mains. Il voit l'épisode des annulations de meetings comme un moyen d'œuvrer à sa défaite. Angela Merkel a dû expliquer que les annulations sont décidées au niveau communal, mais elle ajoute cette petite phrase « C'est un principe pour nous en Allemagne d'être engagés pour la liberté d'expression et c'est aussi approprié de notre part de critiquer les atteintes à la liberté de la presse en Turquie. » Des propos que la chancelière allemande a d'ailleurs réitérés lors d'une conférence de presse donnée aujourd'hui à Tunis.
Merci beaucoup Nabila Hamel. Un mot du ciel de demain. On attend des pluies orageuses sur le sud-est, notamment 11 départements d'Auvergne, Rhône-Alpes et PACA notamment sont en vigilance orange pour des vents très forts. Sur le reste du pays, ce sera variable avec des moments pluvieux et d'autres plus dégagés. Les températures minimales varieront de 2 à 7 degrés. Les maximales en nette baisse à l'ouest atteindront 10 à 17 degrés. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue et Emmanuel Morse d'Incan.